Section 12, pour conclure. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Chapitre 1, puissant pour servir. Ce dont l'Église a besoin en ces jours de péril, c'est d'une armée de serviteurs qui, comme Paul, se sont préparés à être utiles et qui, ayant une profonde expérience des choses de Dieu, sont remplis d'ardeur et de zèle. Il faut des hommes sanctifiés, prêts au sacrifice, disposés à accepter l'épreuve de leur foi et à endosser des responsabilités, avec courage et loyauté. Dans leur cœur, le Christ est formé, l'espérance de la gloire, et, avec des lèvres purifiées par le feu sacré, ils prêchent la parole. La cause de Dieu languit faute de tels hommes. Des erreurs fatales, tel un poison mortel, corrompent les mœurs, dissimulent les lueurs de l'espérance aux yeux d'une grande partie de nos contemporains. Ceux qui sont vraiment des hommes aux yeux de Dieu et dont les noms sont inscrits dans les livres du ciel sont ceux qui, comme Daniel, cultivent chacune de leurs facultés de manière à mieux représenter le royaume de Dieu dans un monde gisant dans le péché. Il faut croître dans la connaissance. Cela est essentiel, car lorsqu'elle est employée dans la cause de Dieu, la connaissance est une puissance pour le bien. Le monde a besoin d'hommes réfléchis, d'hommes de principe, qui croissent constamment dans l'intelligence et le discernement. Il faut également des hommes qui sachent utiliser au mieux la presse afin que la vérité puisse être répandue dans chaque nation, langue et peuple. Va le long des chemins et le long des haies, dit le Seigneur, et invite-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Pour obéir à ses paroles, il nous faut aller vers les païens qui sont tout près de nous comme vers ceux qui sont au loin. Les publicains et les péagers doivent entendre l'invitation. Par la bonté et la patience des messagers du Sauveur, cette invitation devient une puissance pour relever ceux qui sont le plus enfoncés dans le péché. Les principes chrétiens exigent que nous travaillions avec une ferme détermination, avec un intérêt toujours nouveau, avec une insistance croissante, pour les âmes que Satan cherche à détruire. Rien ne doit refroidir l'ardeur de notre zèle pour le salut de ceux qui périssent. Voyez combien l'Écriture nous invite à supplier nos semblables à venir au Christ. Pour attirer les hommes à lui, nous devons saisir toutes les occasions, en public et en particulier, présenter tous les arguments, insister sur leur valeur infinie. Nous devons les presser de regarder à Jésus et d'accepter sa vie de renoncement et de sacrifice. Montrons-leur que nous attendons d'eux qu'ils réjouissent le cœur du Christ en employant chacun de ses dons pour l'honneur de son nom. Ce n'est pas le temps que nous passons au travail qui nous rend agréable à Dieu, mais notre disposition à servir avec bonne volonté et fidélité. Notre ministère doit se caractériser par l'oubli complet du moi. La plus humble besogne, si elle est faite sincèrement et d'une manière désintéressée, plaît beaucoup plus au Seigneur que les plus grands exploits entachés d'égoïsme. Dieu considère l'esprit dont nous sommes animés, et il examine jusqu'à quel point nos actes reflètent l'image du Christ. La somme de travail accompli compte moins à ses yeux que l'amour et la fidélité manifestées dans nos vies. À partir du moment où l'égoïsme sera mort, où nous cesserons de rechercher la première place, dès que notre cœur débordera de reconnaissance et que l'amour remplira notre vie de son parfum, le Christ habitera dans notre âme, et nous serons reconnus comme étant ouvriers avec Dieu. De tous les humains, les réformateurs doivent être les plus disposés à s'oublier, les plus affables et les plus courtois. La véritable bonté doit se manifester dans leur vie par des actes désintéressés. Le serviteur de Dieu qui manque de courtoisie, qui s'impatiente devant l'ignorance ou la perversité des autres, qui parle et agit sans avoir réfléchi, aussi bien rebuter ce qui l'entoure que leur cœur lui seront désormais inaccessibles. Il faut que les paroles invitant les hommes à se détourner de leurs erreurs soient empreintes de toute la douceur avec laquelle la rosée matinale tombe sur les plantes flétries et les ranime après une période de sécheresse. Le plan de Dieu est d'atteindre d'abord les cœurs. Nous devons parler de la vérité avec amour, comptant sur Dieu qui a la puissance de réformer les vies. Le Saint-Esprit fera pénétrer jusqu'à l'âme les mots prononcés avec amour. Nous sommes par nature égocentriques et présomptueux. Mais en apprenant du Christ, Nous participons de sa nature et vivons de sa vie. L'exemple admirable de Jésus, la tendresse incomparable avec laquelle il partageait les sentiments des autres, pleurant avec ceux qui pleuraient, se réjouissant avec ceux qui étaient dans la joie, doit avoir une profonde influence sur le caractère de tous ceux qui le suivent avec sincérité. Par des paroles et des actions aimables, ils s'efforceront à leur tour d'aplanir le chemin devant les pieds lassés et meurtris. L'œuvre de l'éducation ne consiste pas principalement en la communication de connaissances, c'est aussi la transmission d'une énergie vivifiante par le contact d'un esprit avec un autre, d'une âme avec une autre. La vie seule engendre la vie. Quel privilège que celui des disciples qui, pendant 3 années, furent en contact quotidien avec cette vie divine d'où découlent tous les bienfaits dont le Inonde a été enrichi. Plus que tous ses compagnons, Jean, le disciple bien-aimé, subit l'influence de cette vie merveilleuse. Car, dit-il, la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. C'est de sa plénitude que nous avons tous reçu grâce sur grâce. Les apôtres du Seigneur n'avaient, en eux-mêmes, aucun sujet de se glorifier. Il était visible que le succès de leurs travaux était dû à Dieu seul. La vie de ces hommes, leur caractère et l'œuvre puissante que Dieu accomplit par eux, montrent ce que le Seigneur est prêt à faire en faveur de tous ceux qui sont dociles et obéissants. L'humilité passe avant l'honneur. Pour occuper une position élevée devant les hommes, le ciel donne la préférence à celui qui, comme Jean-Baptiste, choisit lui-même une place humble devant Dieu. Le disciple qui fait le meilleur travail pour Dieu est celui qui l'accomplit dans l'esprit d'un petit enfant. Les intelligences célestes peuvent coopérer avec l'homme qui cherche non à se glorifier, mais à sauver des âmes. Celui qui ressent le plus profondément qu'il a besoin de l'aide divine et qui la demande avec instance, recevra du Saint-Esprit une vision de Jésus-Christ qui fortifiera et élèvera son âme. De sa communion avec le Christ, il repartira plein d'ardeur pour sauver ceux qui meurent dans leurs péchés. Il a reçu l'onction et il réussit là où les plus savants et les plus sages selon le monde ne pourraient qu'échouer. Celui qui appelle les hommes à la repentance doit s'entretenir avec Dieu dans la prière. Il doit se cramponner au bras du Tout-Puissant et dire « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Donne-moi la puissance nécessaire pour sauver les âmes. » L'apôtre Paul disait, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Le sentiment de notre faiblesse nous apprend à compter sur une puissance qui ne réside pas en nous-mêmes. Rien n'a, sur nos cœurs, une emprise plus grande qu'un sentiment constant de notre responsabilité à l'égard de Dieu. Rien n'exerce une influence plus profonde sur les mobiles de notre conduite que l'assurance du pardon offert par l'amour du Christ. Il nous faut entrer en contact avec Dieu, pour que nous soyons pénétrés de son Saint-Esprit qui nous rendra capables d'entrer en rapport avec nos semblables. Réjouissez-vous donc de ce que, par le Christ, vous êtes entrés en relation avec Dieu, et vous êtes devenus membres de la famille céleste. Aussi longtemps que vous regarderez en haut, vous aurez le sentiment de la faiblesse de l'humanité. Moins vous chérirez le moi, mieux vous comprendrez l'excellence de votre Sauveur. Plus vous vous approcherez de la source de la lumière et de la puissance, plus vous serez illuminé et plus vous serez à même d'accomplir de grandes choses pour Dieu. Rien n'est plus nécessaire dans notre travail que les résultats pratiques de la communion avec Dieu. Nous devons montrer par notre vie de tous les jours que nous avons la paix du Seigneur. La présence de cette paix dans notre cœur se manifestera dans notre attitude. Elle donnera à la voix une puissance persuasive. La communion avec Dieu ennoblira le caractère et la vie. Les hommes reconnaîtront, comme on le fit des premiers disciples, que nous avons été avec Jésus. Cela donnera une puissance que rien d'autre ne peut communiquer. Ne nous en privons pas. Vivons une vie de pensée et d'action, de prière silencieuse et de travail inlassable. La force reçue par la communion avec Dieu, unie aux efforts constants pour faire prendre à l'esprit des habitudes de prévenance, prépare aux devoirs de chaque jour et garde l'esprit en paix dans les circonstances les plus difficiles. Pour le serviteur de Dieu consacré, il y a une merveilleuse consolation dans le fait que le Christ lui-même, pendant sa vie terrestre, demandait à son Père, journellement, de nouvelles provisions de sa grâce. Cette communion avec Dieu lui permettait de fortifier et de bénir les hommes. Contempler Jésus en prière, prosterné devant son Père. Bien que fils de Dieu, il fortifie sa foi par la prière et, par la communion avec le ciel, il rassemble en lui toutes les forces qui lui sont nécessaires pour résister au mal et servir l'humanité. Frère aîné des hommes, il connaît les besoins de ceux qui, infirmes et vivant dans un monde de péché et de tentation, désirent cependant encore le servir. Il sait que les messagers qui pourraient être envoyés sont des hommes faibles et sujets à l'erreur. Mais à tous ceux qui se vouent entièrement à son service, il promet l'aide du ciel. Son propre exemple nous assure que la foi qui demande avec persévérance, la foi qui conduit à une entière dépendance de Dieu et à une consécration sans réserve, apportera aux hommes le secours du Saint-Esprit dans la bataille contre le péché. Chaque serviteur de Dieu qui suivra l'exemple du Christ se préparera à recevoir et à utiliser la puissance que Dieu a promise à son Église pour lui permettre de recueillir la moisson de la terre. Chaque matin, alors que les héros de l'Évangile s'agenouillent devant le Seigneur et renouvellent leur consécration, il leur accorde la présence de son Esprit et sa puissance de vie et de sanctification. Lorsqu'ils s'en vont pour accomplir leurs tâches journalières, ils ont l'assurance que l'Esprit invisible de Dieu leur permet d'être ouvriers avec Dieu.